C'est notre travail. Nous, on vit pour passer de la musique et pour être le numéro un.
C'est un bateau ancré au large de Hawick, dans la mer du Nord.
Les DJ de la haute mer.
À la limite des eaux territoriales anglaises.
Bringing the time up to 9:04, Radio London Time, the station with kicks on 266.
Dans les années 60, les postes de radio de l'Europe du Nord vont vibrer de nouvelles voix, de nouveaux sons, de nouvelles musiques. On les a appelés Offshore Radio, Pirate Radio ou Marine Broadcasters. Mais quelles que furent les expressions par lesquelles on les désignait, ces DJ de la haute mer, qui opéraient depuis des bateaux ou des forts marins abandonnés, ont écrit d'incroyables pages d'aventures radiophoniques et maritimes.
Nous sommes à la fin des années 50 et deux radios émettent déjà depuis des bateaux ancrés dans les eaux internationales. Radio Mercure, destinée au public danois, et Radio Veronica, qui s'adresse à la Hollande. Un troisième projet est en gestation et va bientôt s'installer pour s'adresser au public suédois. Cette façon inédite et très singulière de faire de la radio a généré d'emblée une solidarité entre les trois équipes. Les promoteurs de Radio Veronica ont bénéficié de quelques conseils de Radio Mercure. Et à leur tour, ces derniers ont partagé leur expérience avec Radio Nord. Les gouvernements des pays concernés sont embarrassés, car ces radios ne font que profiter de dispositions juridiques qui leur sont favorables. Ils équipent leurs bateaux dans des pays tiers et émettent dans les eaux internationales. Pour tenter de contrer ces initiatives, il reste les pressions diplomatiques et la saisie du matériel. Mais les promoteurs de ces projets sont apparemment déterminés à subir quelques revers. Pour le comprendre, il faut considérer le paysage radiophonique de l'époque qui est très restreint. Toute nouvelle voix sur les ondes se fait d'emblée remarquer. Radio Mercure n'a eu besoin que de quelques semaines pour bénéficier d'une audience déjà respectable. On peut dire que Radio Mercure a non seulement inauguré le modèle des radios offshore qui fera école en Europe, mais a aussi inauguré certaines des difficultés auxquelles ces stations feront face. En effet, pour se préserver au maximum des rétorsions juridiques, les concepteurs du projet créèrent une myriade de sociétés qui contribuaient toutes au fonctionnement de la radio, mais qui y étaient liées de façon très distante. Du côté des problèmes techniques ou maritimes, c'est aussi Radio Mercure qui, bien involontairement, inaugura dès ses débuts la rupture d'ancrage qui deviendra un grand classique. Le 17 juillet 1958, en effet, le câble d'ancre du Cheta Mercure se rompit et le bateau dériva jusque dans les eaux territoriales suédoises. Mais la station prouva aussi très rapidement qu'elle comblait un vide laissé par les médias traditionnels. En effet, quelques mois à peine après le début de ces émissions, un sondage montra que 22% des habitants de Copenhague étaient à l'écoute, ce qui représentait environ 300 000 auditeurs. Toutefois, les premières difficultés financières arrivèrent rapidement, car les potentiels annonceurs, d'abord enthousiastes, furent effrayés par les pressions diplomatiques que le gouvernement danois exerçait sur le Panama, qui était le pays d'enregistrement du Cheta. Cela n'empêcha pas l'audience de progresser encore. À la fin de l'année 1958, 33% des habitants de la capitale et 14% dans le reste du pays écoutaient Radio Mercure. De plus, 42% des Danois se prononçaient pour une légalisation de la station. Mercure étant aussi populaire en Suède, la radio inaugura des programmes dans cette langue, le 1er septembre 1958. Moins d'un an plus tard, la station expérimenta Copenhagen Today, un programme en anglais destiné aux touristes en visite dans la capitale. À ce moment, 38% des Danois écoutent la station. Malgré tout, les autorités ne désarment pas. Comprenant qu'elles ne pourront rien du fait de la délocalisation de la domiciliation juridique, elles incitent une démarche internationale. Ainsi, l'Union internationale des télécommunications décida en 1959, sous la pression du Danemark, de rédiger une résolution interdisant la diffusion d'un programme radiophonique depuis la mer. Mais cela ne se traduisit par aucune mesure concrète contre Radio Mercure. En effet, hormis le Danemark et la Hollande, les autres États membres n'étaient pas encore concernés par ce phénomène. Pendant ce temps, l'audience de la pionnière des radios offshore continue d'augmenter pour atteindre près de 2 millions d'auditeurs. La radio est maintenant à l'étroit dans son bateau. Elle fait l'acquisition d'un plus grand navire, le Cheetah 2.
Viceroy, ja Viceroy, tittai otin mai, uime fildoo si vifo Viceroy.
Ja, si vifo Viceroy.
Top kvalitet med filtertip.
Viceroy er altid frisk pakket.
Viceroy vinder nye venner hver dag.
Viceroy, ja Viceroy, tittai otin mai, vi siger alle sammen vifo Viceroy. Viceroy, Viceroy.
De son côté, Radio Véronica doit aussi faire face à des difficultés d'ordre légal. Le gouvernement hollandais refuse l'enregistrement de la société au registre du commerce. Le passeport d'un des dirigeants lui est retiré. Les téléphones de tous les responsables sont mis sur écoute. Les communications entre le navire et la terre sont bloquées. Et enfin, les émissions de Véronica sont brouillées par le ministère des télécommunications hollandais au motif que la radio brouillerait les stations maritimes de la région. Véronica arrête son émetteur le 13 mai pour revenir le 15 sur une nouvelle fréquence. Mais le gouvernement hollandais joue sur tous les fronts, comme on peut le lire dans un article du Times du 20 mai 1960. Le bateau radio-pirate Véronica, qui, sous le pavillon panaméen, émet juste à la limite des eaux territoriales des Pays-Bas, est devenu muet pour le moment. C'est le résultat d'un ordre du chargé d'affaires panaméen aux Pays-Bas, qui a déclaré au propriétaire du navire qu'il serait privé du droit de battre pavillon panaméen s'il ne se conformait pas à ces lois. Les propriétaires seraient en contact avec leurs avocats. Le gouvernement panaméen fonde son action sur une convention de 1947 conclue à Atlantic City, qui fixe des règles internationales pour l'utilisation de la radiodiffusion à partir des navires et estime également que la sécurité en mer est menacée par l'activité du navire. Mais deux jours plus tard, la station est de retour sur les ondes. The Times, mardi 24 mai 1960. La radio pirate s'apprête à reprendre ses émissions de notre correspondant à La Haye le 23 mai. Les propriétaires du Véronica, le navire radio pirate qui émet juste en dehors des eaux territoriales des Pays-Bas, ont décidé, après une journée de silence, de reprendre les transmissions. Les propriétaires ont été informés qu'ils ne pourraient plus arborer le pavillon panaméen si la diffusion continuait. Mais ils ont l'intention de continuer, en attendant les négociations avec le gouvernement du Panama. Comme Radio Mercure, Véronica rencontre un incontestable succès, non seulement auprès du public néerlandais, mais aussi d'une partie des Belges néerlandophones. Dans les deux cas, cette rapide popularité tient en partie au fait que les médias en place ignorent les aspirations de la jeunesse qui veut entendre cette nouvelle musique rock et pop. Non seulement ces radios la diffusent peu, mais dans certains cas, ils la méprisent presque ouvertement en prétendant par exemple que ce nouveau genre musical va contribuer à la décadence de la jeunesse. Radio Véronica annonce en novembre 1960 qu'elle aurait 5 millions d'auditeurs.
Jullie luisteren op het ogenblik naar Teenager Toppers, de in de afgelopen week door teenagers meest gevraagde platen. Gee whiz, it's you, zegt Cliff Richard. Ja, en als Cliff Richard het zegt, zal het wel zo zijn.
Picking up those dainty little feet. Who's the one that catches my eye every time she passes by? Gee whiz, it's you. Ever since we said goodbye, all because of a little white lie. Let me tell you why we parted. Let me tell you what my heart said. Gee whiz, it's you. You're the one that makes me blue. Won't you please come back to me? We can pick up where we started. Listen now to what my heart says. Gee whiz.
easy to you. Pick up where we started. Listen now to what my heart said. Gee whiz, it's you. Gee whiz, it's you. Gee whiz, it's you.
Vorige week op de 8e plaats, nu weer een plaatsje naar voren, dus nu op de 7e plaats, Walk Right Back, gezongen door de Everly Brothers.
Radio Nord, qui n'a pas encore débuté ses émissions, doit aussi faire face à des difficultés. En octobre 1959, le gouvernement allemand a réussi à expulser le MS Olga du port de Hambourg. Rebaptisé « Bonjour » en français dans le texte, le navire arrive dans un chantier naval de Langelin, près de Copenhague, pour y recevoir le mât de transmission et l'émetteur. Parallèlement, la station ouvre des studios à Stockholm. Elle prévoit de débuter ses émissions d'ici à la fin de l'année. Et le 20 décembre, le Bonjour tente de rejoindre son lieu de mouillage, près du phare d'Almagrande, en face de Stockholm. Seule une annonce détournée dans un journal, Expressen, évoque l'arrivée prochaine de la station. L'ensemble des titres de presse ayant refusé d'accueillir des publicités pour la première radio offshore suédoise, c'est la maison de disques Metronome Records qui fait paraître un message dans Expressen en félicitant par avance Radio Nord pour son lancement sur 494 mètres en ondes moyennes. Mais plusieurs problèmes vont contrarier les projets de cadeaux de Noël que l'équipe comptait faire aux Suédois. Tout d'abord, en ce 20 décembre, la météo est vraiment très mauvaise et le Bonjour a à peine quitté le port de Copenhague que le capitaine décide de jeter l'ancre pour des raisons de sécurité. Le bateau repart le lendemain dans l'après-midi, mais doit à nouveau jeter l'ancre car durant la tempête, le mât a été endommagé et il faut réparer. Le 23 décembre, le bateau de Radio Nord atteint ce que le capitaine croit être sa zone de mouillage. Mais lorsque les techniciens branchent le matériel, il se produit un court-circuit. Des programmes devaient être acheminés sur le Bonjour pour une diffusion le 24 décembre. Mais le bateau de pêche porteur des précieux enregistrements mit 2 jours à localiser le Bonjour car son capitaine avait mal estimé le lieu de mouillage. Le 25 décembre, au lieu de démarrer la diffusion, l'équipage laisse le Bonjour en pleine mer de crainte que le mât ne s'effondre sur le pont. Le 27 décembre, l'équipage regagne le navire afin de le remorquer dans un chantier naval. Mais lorsqu'ils arrivent à Lidingö, ils découvrent que ce chantier n'est plus en activité depuis 6 mois. On l'a dit, la presse suédoise n'a pas caché son hostilité à l'égard de cette nouvelle radio offshore. D'une voix quasi unanime, elle demande aux autorités de saisir le bateau. Dans une errance totale, le Bonjour fuit précipitamment la Suède pour éviter la saisie et va se réfugier dans les eaux territoriales finlandaises. À la demande du gouvernement suédois, la Finlande fait pression sur le chantier naval qui devait accueillir le navire. L'armateur d'un autre chantier va accepter de transporter ses ouvriers en mer pour que les réparations soient effectuées sur le bateau, qui mouille à la limite des eaux territoriales finlandaises. Le 6 février 1961, sous la direction d'un nouveau capitaine, le Bonjour jette l'ancre au large d'Orno. Mais un nouveau problème technique survint, et le navire dut encore une fois gagner un chantier pour réparation. Le 21 février, le bateau rejoint à nouveau son lieu de mouillage, prêt à débuter des essais de transmission. Mais un problème sur les condenseurs oblige à nouveau un retour vers le chantier naval de Finnboda. Le 1er mars, le Bonjour est à nouveau au mouillage dans les eaux internationales en face de Stockholm. Il a quitté les eaux territoriales juste avant qu'une loi promulguée à la hâte n'autorise la saisie de tout équipement de radiotransmission présent sur un bateau se trouvant à l'intérieur des frontières du pays. Le 10 mars 1961, Radio Nord fait enfin son entrée sur les ondes.
Ja, här är Radio Nord-redaktionen ombord på MS Bonjour. Jag vill meddela att vår chefstekniker ombord, han vill gärna utföra några ytterligare mätningar på vår nya antennutrustning innan vi sätter igång på allvar igen. Därför så kommer vi att börja ungefär 8:45 med en bit utav dagens, eller rätt sagt kvällens, reguljära Radio Nord-program. Men vi vill påpeka att det programmet ni kommer att höra inte räknas in som reguljärt program i vanlig mening. Varför den tiden när vi sätter igång med den här biten av dagens program inte kommer att räknas i vår tävling. Utan vi har alltså fortfarande officiellt avstängt för alla tävlingsdeltagande. Så det är bara att fortsätta att lyssna, och vi kommer att mycket noga tala om när vi verkligen sätter igång för fullt igen. Och så vill jag än en gång tala om att detta är Radio Nord som testsänder på 495 meter 606 kilocykler.
Koppla på Radio Nord
och koppla av med Radio Nord.
Quelques semaines plus tôt, Radio Veronica a annoncé qu'elle allait débuter des programmes en anglais. Le Times du 15 février s'en fait l'écho. Radio Veronica, la radio commerciale néerlandaise qui fonctionne sans autorisation des autorités néerlandaises depuis un navire en mer du Nord en dehors des eaux territoriales du pays, démarre jeudi prochain une émission d'essai en anglais. La capacité de l'émetteur, désormais de 400 watts, sera portée à 2 kW. Amsterdam, 14 février. La station de radio commerciale flottante Veronica émet depuis un bateau phare allemand de 49 ans. En annonçant aujourd'hui cette initiative, la direction de Veronica a déclaré que les programmes en anglais seraient diffusés de 7h à midi et de 23h à minuit GMT sur 192 mètres. La station diffuse en néerlandais depuis le début de l'année dernière. Les propriétaires du Veronica, de 457 tonnes, ont immatriculé le navire dans un port sud-américain, non divulgué, dans l'espoir d'éviter d'éventuelles complications. Il se trouve à 5 miles au large des côtes néerlandaises, près de Scheveningen-Reuter. La BBC sera à l'écoute à partir de demain pour détecter d'éventuelles interférences de la part de Veronica. Nous suivrons l'évolution de la situation avec intérêt et nous prendrons certainement des mesures si cela interfère avec les émissions de la BBC, a déclaré un porte-parole à Londres. Nous aurons alors des choses à dire au ministre des Postes. Un porte-parole de la General Post Office a déclaré à Londres qu'il était difficile de savoir ce qui pourrait être fait si le navire se trouvait en dehors des eaux territoriales britanniques. Hormis les pressions diplomatiques, quelques actions judiciaires permettant la saisie épisodique de matériel ou l'interdiction d'accès des navires dans les eaux territoriales, les gouvernements sont sans véritable arme. La presse, de son côté, observe ce nouveau phénomène sans trop savoir qu'en dire. Mais la prochaine diffusion en anglais annoncée par Veronica apporte un fait nouveau. La BBC s'en mêle, et l'on comprend que la vénérable radio publique britannique n'est pas seulement soucieuse d'une possible atteinte à la réception de ses programmes, mais aussi d'une possible atteinte à son monopole. En réalité, c'est dès la fin du mois de novembre 1960 que les premiers tests de transmission en anglais ont été effectués sur la fréquence de Veronica, sous le nom de CNBC, Commercial Neutral Broadcasting Company. C'est l'émetteur et les ressources du studio de Veronica qui sont utilisés, car la nouvelle station a été créée par les mêmes responsables. Le 23 novembre 1960, par exemple, lorsque le programme néerlandais est silencieux, on peut entendre les tout débuts de CNBC. Le slogan est « The Radio Sound of Tomorrow Today » et l'animateur s'appelle Doug Stanley.
Well, this is the time of hour when we play fine sounds of music on CNBC, and as of our official date, which will be about the beginning of the year, we will be airing all kinds of weird and wonderful music to you. from 12 midnight Greenwich Mean Time until approximately 3 o'clock in the morning. That must be surely one of the first commercial late-night disc jockey programs that you will have the opportunity of listening to, and we hope you will. At this point, let's say hello to able seaman V.N. Kokoza at HMS Enterprise, who writes in care of the General Post Office in London, England, and he tells us a lot of fine things. He had apparently a restless night when writing this letter, and therefore found our program kind of comforting. We kept him company. He thought it relaxed and also enjoyed the CNBC trio, which he considers really swings from beginning to end. Tonight's no exception. They're right here in the studio with me, to my left, and they have a concoction titled Blue Moon. So, boys, if you're ready, we'd like to hear it.
Radio Véronica n'a à ce moment publié aucun communiqué pour annoncer ce futur programme. Et comme son émetteur n'est pas très puissant, sa portée ne dépasse pas les côtes britanniques. Du coup, ses premiers essais n'ont pas été remarqués en Grande-Bretagne. Mais l'article paru dans le Times du 15 février 1961 et la réaction immédiate de la BBC donnent un formidable écho aux essais de transmission que l'on peut à nouveau entendre le lendemain sur la fréquence de la station néerlandaise. à partir de 5 heures du matin, CNBC va diffuser ses deux premières heures d'émission.
You're listening to the radio sound of tomorrow today, the CNBC wave. And you dial 192 meters medium wave to get it. We hope you do. As of this morning, this is CNBC broadcasting to you on the southeast coast of England and other parts, no doubt, of England, picking us up. We'd like to hear from you by way of reception reports, find out what it's coming in like. We're broadcasting, incidentally, for those of you technically minded people, 1,500 watts, going up soon to much stronger power. Approximately 6,500. So you're not getting us too loud at this moment. When you run in about 2 weeks' time, we guarantee. You like jazz? Well, you'll like this by Hampton Haas. Trio.
De son côté, Radio Nord a dû changer le nom de son bateau, car sous la pression du gouvernement suédois, le Nicaragua lui a retiré son pavillon. Le Bonjour s'appelle maintenant le Magda Maria et son pavillon est panaméen. Radio Nord va surtout, sous l'influence de Gordon McLandon, introduire un type de programme inédit en Europe. Les radios européennes commerciales, comme Radio Luxembourg par exemple, déclinaient leurs programmes sous forme de sessions de 15, 30 minutes ou une heure. Chacune de ces émissions était consacrée à un thème ou un style musical particulier et avait un sponsor. Les deux premières radios offshore européennes avaient repris le même genre de programme. Ayant introduit le format Top 40 avec un énorme succès sur une des radios qu'il dirigeait aux États-Unis, McLandon appliqua le même principe au programme de Radio Nord. Ce principe reposait sur deux règles. D'une part, un auditeur ne devait jamais attendre trop longtemps avant de pouvoir entendre une musique dans le style qu'il affectionnait. Et surtout, pour entendre les titres qu'il préférait, il ne devait jamais être obligé d'écouter à une heure précise. Ainsi, la succession des programmes thématiques fut abandonnée au profit d'une playlist musicale variée, alternant différents styles. C'est ainsi que sont faites les radios musicales aujourd'hui. Mais Radio Nord fut la première en Europe à mettre en place ce format. Le traitement des informations était aussi très novateur, et là aussi influencé par la méthode KLIF de Dallas. Le slogan de KLIF était « Tomorrow's News Today ». La radio avait non seulement développé un réseau de correspondants dans la région de Dallas pour enrichir en permanence l'information, mais s'il n'y avait aucun fait nouveau, les journalistes étaient invités à réécrire leurs bulletins afin que les informations paraissent toujours récentes. Radio Nord ne pouvait évidemment mettre en place un réseau de correspondants en Suède, et ses tentatives d'association avec de grandes agences de presse, comme Associated Press notamment, restèrent vaines. Mais la radio put tout de même mettre en place un système de collecte d'informations très en avance sur son époque. Enfin, les animateurs étaient invités à ne pas faire des interventions au micro dépassant une minute, et les journaux devaient durer au maximum 3 minutes. Radio Nord fut aussi la première à ne pas uniquement enregistrer ses programmes à terre, mais à en réaliser en direct depuis le bateau.
Vill ni kalla till ett föreningssammanträde eller ett klubbmöte? Det kan ni göra alldeles gratis på Radio Nords anslagstavla. Meddela oss bara tid och plats för mötet så ska vi ge en effektiv spridning åt kallelsen. Skriv ett brev senast en vecka i förväg till anslagstavlan Radio Nord Stockholm 3. På anslagstavlan kan ni spika upp meddelanden till era förenings- och klubbmedlemmar utan kostnad.
Och nu lämnar vi över ordet till nyhetsredaktionen.
Ja, dygnet runt hörs Radio Nord.
För er är den gjord, just Radio Nord.
Så bli vår gäst, vi bjud på fest.
Var dag är på Radio.
C'était le deuxième épisode des DJ de la Haute-Mer, une émission proposée par Olivier Delaporte.